le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour, nous entrons maintenant dans le service protestant, votre rendez-vous du dimanche matin à 8h30 sur France Culture. Une émission présentée par Jean-Luc Gadreau et avec moi dans quelques instants, ce quatrième dimanche de l'Avent, Flavien Negrini, pasteur de l'Union des Églises Évangéliques Libres à Poitiers. Vous l'attendez peut-être impatiemment avec derrière cette interrogation que nous réserve ce matin Vincent Smetana pour cette quatrième chronique. Avant, pendant et après. Et puis quoi encore Vincent Smetana ?
Alors, dans ce temps particulier, ce temps à part, qu'au fond nous chérissons d'une manière ou d'une autre, nous aimons, oui, nous aimons chacune et chacun à notre manière cet entre-deux, cette saison étoilée de l'Avent avec son défilé de Madeleine de Proust, les odeurs dans la rue, les lumières qui signifient la lumière à venir ou qui essayent de nous faire croire qu'elles essayent ça, ces guirlandes, ces pompons, ces scintillements, ces produits, ces matières singulières. Sur les grands boulevards, on se ramasse dans le museau des odeurs de crêpes et de pommes de pin, des marrons flambés sur des poêlons. À chaque coin de rue, ça sent la laine parfumée au caramel, les eaux de parfum bon marché ou Chanel, ça sent le diesel, le ventre nu des sacs poubelles et les copeaux de cannelle. C'est génial. Ça sent Noël et parfois même il neige, des vrais flocons. On sent que c'est décembre. Et même s'il n'y a pas de neige, on nous flanquera des gros canons qui crachent des faux flocons. Mais c'est chouette, même s'il fait trop doux pour la saison à cause non pas du réchauffement climatique, mais du dérèglement climatique, nous dit-on, et qu'il pleut. Mais c'est rien du tout. On sait qu'on est en décembre, et en décembre, c'est le temps de l'Avent, le temps du mouvement intime, de l'attente et du changement. Ce moment décidé par Dieu qui est arrivé, crierait Jean aujourd'hui, debout sur une luge au milieu des grands boulevards. Le royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie et croyez à la bonne nouvelle, Marc 1, 15. En fait, le temps de l'Avent, c'est désirer ça profondément, le changement. Laissez les héritages, les anciens chemins, changer en vrai, ne plus vivre en vain, changer, verbe transitif, action de transformer quelque chose ou quelqu'un, le faire passer d'un état à un autre état, d'une humeur à une autre humeur, d'une disposition de cœur à une autre disposition de cœur, rendre cette quelqu'une ou ce quelqu'un neuf, meilleur, différent. Tout ce temps de l'Avent, pouvons-nous apprendre, aurons-nous pu apprendre à lâcher ce qui n'est pas nous, pour apprivoiser ce qui le devient pleinement. Dites-moi un petit peu, Jean-Luc, je vous observe du coin de l'oreille, vous savez, ne croyez surtout pas que je ne vous vois pas. Je sais bien que vous vous posez des questions auxquelles je ne réponds pas depuis bientôt 3 semaines. Peut-être que même vous recevez des appels, Jean-Luc, des mails, des textos agacés qui vous harponnent toujours sur les mêmes choses. Mais que dit-il ? Et pourquoi ? Et combien ? Et depuis quand ? Toutes ces questions sur l'Avent qui pleuve, que dis-je, qui neige sur votre attente. Quelle est la signification de Noël ? Pourquoi calendrier de l'Avent et pas avant ? Je veux dire, pourquoi l'Avent s'écrit avec un E et pas un A ? Parce que ce terme vient du latin adventus, je l'ai déjà dit, dérivé de venir, arriver, et signifie venu, arriver, avènement. Au final, il a perdu le D de adventus, mais gardé le E. Voilà, autre chose ? Ah oui, pourquoi les 4 bougies de l'Avent ? La couronne de l'Avent, ou plus strictement les 4 bougies, représentent les 4 semaines avant Noël. Voilà, on allume les bougies les 4 dimanches avant Noël. La raison est simple, on n'allume pas la 4e bougie à Noël, puisqu'il n'y a plus de jour d'attente. Pourquoi l'Avent dure-t-il 4 semaines ? C'est également un ancien symbole signifiant plusieurs choses. Et tout d'abord, la couronne symbolise la victoire, en plus de sa forme ronde évoquant le soleil et son retour chaque année. Le nombre de 4 représente, en plus des 4 semaines de l'Avent, les 4 saisons et les 4 points cardinaux, bla bla bla. Comment expliquer le temps de l'Avent aux enfants ? Quand allumer la première bougie de l'Avent ? Comment faire une couronne de l'Avent ? Mais tout ça, c'est trop tard pour l'expliquer, Vincent. Il fallait le dire avant. Alors, quand enlever la couronne de l'Avent ? Et pourquoi dit-on calendrier de l'Avent ? Quelle est la couleur liturgique du temps de l'Avent ? Oui, qui, quoi, où, quand, comment ? On s'agite pourtant de choses inutiles. Le temps de l'Avent, c'est ça surtout, apprivoiser en nous un rythme nouveau, autre, différent. Alors disons ceci, la confiance, ne serait-elle pas plutôt de se dire « Tu nous réponds en ton temps, Seigneur, parce que toi tu sais quand nous sommes prêts à entendre et à comprendre. Tant non masculin, notion fondamentale qui signifie le caractère d'un moment particulier qui tient compte de la cadence unique et singulière du rythme de nos vies. Oui, à nouveau, oui, le temps de l'avancer, habiller notre cœur d'un vêtement inédit et différent, se préparer à un changement bouleversant, tracer au-dedans de nous un espace lumineux, rare et géant pour y loger la bonne nouvelle. Et donc, oui, à nouveau, oui, laisser les héritages, les anciens chemins, changer en vrai pour ne plus vivre en vain. Jamais. Allez, à la semaine prochaine.
Merci Vincent Smetana, et je le rappelle, vous êtes artiste et secrétaire général de la Société biblique francophone de Belgique, et donc nous allons suivre votre conseil du jour, prendre notre temps sans s'agiter. Et d'ailleurs, eh bien, je rebondis sur votre « à la semaine prochaine » pour inviter nos auditeurs à nous retrouver vendredi 25, notez-le bien, à 9h30 exceptionnellement, pour un service protestant qui prendra cette fois-ci vraiment les couleurs de Noël et pendant lequel on se régalera une fois de plus, un bonus, en vous écoutant pour une dernière chronique. C'est bon pour vous, Vincent ?
Mais carrément, je m'en réjouis déjà.
Et nous continuons en accueillant Flavien Negrini. Vous êtes pasteur de l'Union des Églises Évangéliques Libres à Poitiers. Bonjour pasteur Negrini.
Bonjour Jean-Luc. Effectivement, nous sommes le quatrième dimanche de l'Avent. Et comme chaque année, c'est un temps privilégié pour se rappeler, une fois encore on pourrait dire, un temps privilégié pour créer quelque part en nous l'espace pour accueillir comme tout à nouveau Noël ou la naissance de l'enfant Dieu. L'un des textes proposés à notre méditation est connu même de ceux qui ont peu ou aucune pratique de la foi chrétienne. D'ailleurs, il se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, les versets 26 à 38. Voici l'histoire.
Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et sera appelé Fils de Dieu. » Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. » Et l'ange la quitta.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre la série De Gaulle, « L'éclat et le secret » qui est sorti sur nos écrans de télévision le 2 novembre. Cette série nous parle d'un temps en bien des points similaires à celui durant lequel l'échange entre Marie et l'ange a lieu. La France est envahie par une armée étrangère, la liberté est déjà bien limitée, Bordeaux est encore une enclave de liberté dans laquelle le gouvernement français s'est réfugié. Au milieu du chaos, on nous invite à l'entretien de Georges Mandel, ancien ministre de l'Intérieur, avec Charles de Gaulle. Tous deux se refusent à une capitulation devant l'ennemi. C'est ainsi que l'on entend Georges Mandel encourager vivement De Gaulle à poursuivre la lutte depuis l'Angleterre, alors que lui la poursuivra depuis la France. L'entretien est presque clos lorsque Mandel se tourne vers la fenêtre ouverte, donnant sur une nuit profonde. Il dit alors quelque chose comme « La nuit est bien obscure, mais le jour nouveau naît toujours de la nuit ». Je pense que vous le savez, mais Georges Mandel sera assassiné à la fin de la guerre par la milice française. Cependant, en affirmant que la nuit n'a pas le dernier mot et que le jour naît de la nuit, il aura donné courage et force à De Gaulle pour entrer dans la lutte qui sera la sienne. Cela participera grandement de ce qui fera le devenir d'une des belles figures de l'histoire de France. Donner de l'espérance permet de changer le monde, et plus encore. L'obscurité, la nuit, sont propices aux angoisses, à la peur, à l'immobilisme. Lorsque l'ange apparaît à Marie, son avenir ne se prête pas aux rêves. Tensions politiques, économiques, guerre alentour. Et puis Marie est participante d'une population soumise à un occupant redoutable. On lui a bien promis un mari, mais est-il celui qu'elle a ou aurait choisi ? Le temps alors et la manière de raconter l'histoire laissent entendre qu'il a été choisi pour elle. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'histoire nous la présente ouverte à la rencontre, surprise sans doute, mais pas désarçonnée plus que cela. La rencontre est pour le moins particulière, un ange. Et puis un ange qui l'informe, parce qu'il ne propose pas. Il l'informe d'une vie bouleversée par la présence de Dieu, mais aussi de sa future maternité.
Alors oui, c'est en effet un contexte important à réentendre pour bien percevoir, il me semble, les circonstances du moment. D'ailleurs, on passe parfois à côté de ces détails qui pourtant sont extrêmement importants dans une histoire. On peut par exemple, avec ce récit, garder en tête l'Annonciation à Marie comme un joli moment, un peu mystique, surnaturel, angélique même, en gros dépeint en rose pastel. Mais ça n'est pas vraiment ça en vous écoutant, Pasteur Negrini.
Eh bien non, effectivement. Revenons au récit et imaginons. Tant d'obscurité, tant de malheur. Et voilà qu'il est proposé à cette jeune femme d'être joyeuse. Pourquoi ? Parce que tu as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi, dit le texte. Alors jusque-là, c'est troublant, encore sympathique.
Mais ça se complique après, il me semble.
Effectivement, malheureusement. Parce qu'alors qu'il l'invite à quitter la peur, elle apprend qu'elle va être enceinte d'un inconnu, le Saint-Esprit. Est-ce ainsi qu'une jeune femme va pouvoir quitter la peur ? En tout cas, on pourrait imaginer que la nouvelle ne lui ait pas fait grand plaisir. Dans ces temps troublés, être enceinte, n'est-ce pas encore plus difficile, angoissant ? Financièrement, qui va s'occuper de l'enfant ? Quel avenir pour lui dans un monde en désarroi ? Sans compter la déception qu'elle va infliger à son fiancé, aux familles, au village. Alors, bonne nouvelle ! C'est vrai, l'enfant semble avoir des titres glorieux, un rôle déterminant à jouer dans l'histoire des hommes, de son peuple. Mais là, maintenant, dans l'histoire chargée d'obscurité de Marie, est-ce vraiment une bonne nouvelle ? Est-ce vraiment un cadeau de Dieu ? Est-elle réellement bénie ? Ces questions qui peuvent tarauder nos vies lorsqu'elles sont percutées par le malheur, l'obscurité, l'inconnu, les difficultés, les tragédies, certainement n'échappent pas à Marie. À quoi vont lui servir des promesses pour après ? Qui vont compliquer sa vie aujourd'hui. Comment ces promesses peuvent-elles être promesses lorsque le quotidien est déjà difficile et qu'en rien elles n'en facilitent le maintenant ?
Eh bien, je vous propose de rester avec ces questions, pour le moment en tout cas, et que nous nous plongions quelques instants dans une œuvre musicale que vous affectionnez d'ailleurs et que vous avez choisie. Il s'agit du Messie de Handel, mais ce matin, en écoutant plusieurs extraits dans ce service protestant, ce sera dans une version différente, celle du trompettiste, arrangeur, compositeur et producteur américain Quincy Jones. Handel's Messiah, A Soulful Celebration, avec un premier extrait donc, Oh, thou that tellest good tidings to Zion, interprété par Stevie Wonder et le groupe vocal Take Six.
Oh, thou that tellest good tidings to Zion, get up into the high mountain. Oh, thou that tellest good tidings to Zion, get up to the high mountain. Oh, thou that tellest good tidings to Jerusalem, arise. The glory of the Lord is cities of Judah, oh, the glory of the glory of the Lord. Oh.
Dans le service protestant sur France Culture, un extrait du Messie de Handel dans sa version produite par Quincy Jones. Un titre qui dit « Ô toi qui annonce de bonnes nouvelles à Sion, monte sur la haute montagne. Ô toi qui annonce de bonnes nouvelles à Jérusalem, élève ta voix avec force, élève-la, ne crains pas. Dis aux cités de Juda, voici votre Dieu. » Tout cela en reprenant le texte d'Ésaïe chapitre 40 verset 9. Pasteur Flavien Negrini, nous vous avons quitté avec quelques questions plutôt pétri d'inquiétude. Alors, quelle réponse y apporter maintenant ?
Des réponses partielles, certainement. Et puis, peut-être la première question qu'on peut se poser, c'est la véracité de l'histoire. Effectivement, comme première question, est-ce que cette histoire est vraie, crédible ? En tout cas, pour ma part, elle n'a pas raison d'être mise en question, puisque l'invisible, l'inaccessible sont par définition difficilement visibles et accessibles à la raison pure. L'histoire nous questionne sur la notion de foi, de croyance, d'espérance dans un monde perdu. Alors, j'aime avoir le basculement de l'histoire d'un récit qui pourrait être triste et malheureux, enceinte d'un inconnu, dans un pays occupé, en guerre, à une histoire qui devient riche d'espérance pour le quotidien de Marie et dans sa prolongation pour mon propre quotidien. Tout cela réside dans le choix finalement d'un acte de foi et le choix du regard vers un ailleurs. Il ne s'agit surtout pas de fuir, n'allez pas l'imaginer, mais plutôt d'accueillir dans le présent du moment donné une parole porteuse d'une présence qui fait vivre. Marie va participer et construire cette histoire à travers un cheminement intérieur que je trouve remarquable. C'est en cela que personnellement je l'admire et qu'elle est pour moi en tout cas un exemple, une icône. Son cheminement se construit dans le questionnement du « comment ». Comment cela adviendra-t-il ? En disant cela, Marie est bien consciente que sa réalité ne peut accueillir la promesse qui vient d'ailleurs. En disant comment, elle ouvre à la possibilité d'un accueil en elle-même de quelque chose qui la dépasse. Elle veut comprendre, elle veut participer. Ce comment, pour moi, n'est pas le lieu du refus narquois, mais c'est l'ouverture, c'est une ouverture à l'appropriation. Et cela fait toute la différence. Les « comment » de nos vies sont souvent manières de dire l'impossible qui fait peur et auquel on se refuse. Ce sera le « comment » des versets qui précèdent. Ce « comment » mis dans la bouche de l'oncle de Marie, Zacharie, qui est le futur père de Jean-Baptiste. Son « comment » est l'expression de son manque de foi, et d'ailleurs il le conduit au silence. Par contre, celui de Marie peut s'entendre autrement. Il est un « comment » qui manifeste l'ouverture et le désir malgré l'inconnu. Peut-être parce qu'elle a accepté et s'est approprié la première partie du message. Tu as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. En effet, elle a bien entendu que Dieu vient s'impliquer en personne dans son histoire, affirmant qu'elle a sa faveur. Dieu vient rendre possible la promesse. C'est lui qui l'accomplit par sa présence même. En disant cela, quelque part, l'ange dépossède Marie du besoin d'une action autre que l'accueil de la parole qui dit la présence. Il l'invite non pas à un faire, mais à accueillir pour recevoir, accueillir la présence extérieure à elle pour recevoir au cœur de sa vie la vie.
Alors, permettez-moi de réagir. C'est énorme, en fait, ce qui se vit précisément là, à ce moment de l'histoire. On est tellement marqué, j'aurais tendance à dire, dans le fond de notre ADN, par le besoin, la nécessité de faire, d'exister d'abord par ce que nous laissons comme acte, que l'on peut en oublier simplement, en fait, le besoin de savoir recevoir.
Vous avez tout à fait raison, exactement. Et en faisant ce qu'elle fait, Marie montre un chemin encore accessible, je crois, 2000 ans après, afin de permettre que Noël ce soit davantage qu'une belle fête, ou bien alors pour certains un temps redouté, qui oblige, qui amène à bien des tensions, voire des dépenses dont l'on se serait parfois passé. Marie, elle, par son attitude, elle montre un chemin qui permet d'entrer dans la profondeur de ce que le temps de Noël redit année après année. Le Créateur, Dieu, le Seigneur est avec nous et non pas contre nous. Nous avons obtenu la faveur de Dieu. Ce monde, notre monde, et chacun de ceux et celles qui l'habitent, sont au bénéfice de cette faveur de Dieu. C'est pour cela qu'il vient en personne. En choisissant de croire ce que dit Dieu, Eh bien, elle nous invite à un lâcher-prise, celui d'un quotidien que nous avons dessiné avant de le vivre. Elle nous propose de nous ouvrir à l'accueil d'un présent riche d'inattendus. Et on peut dire que c'est au prix de ce lâcher-prise, qui s'appuie sur l'accueil de cette parole extérieure, autre que la nôtre, celle qui dit la bienveillance et la présence de Dieu, que nos vies peuvent être rejointes et s'ouvrir à la vie avec un grand V. C'est au prix de ce risque que la parole qu'elle a reçue pour sa vie peut devenir une parole pour notre vie, pour ma vie à moi aujourd'hui. Alors j'aime ce temps de l'Avent comme un temps propice à la remise en question, non pas pour nourrir mes lieux de culpabilité ou nos lieux de culpabilité, mais bien pour proposer d'ouvrir nos cœurs, nos vies, à l'inattendu de Dieu qui aujourd'hui encore, malgré tout ce qu'on peut vivre de difficile, de questionnant, Dieu qui désire se rendre présent pour libérer, sauver nos vies cabossées, abîmées, nos vies sans espérance. Alors, dans ces temps où l'espérance semble nous fuir, n'est-il pas bienfaisant finalement d'entendre Marie dire « Comment ?» Puis « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. »
Avant de nous diriger vers la conclusion de votre réflexion autour de ce texte de l'Annonciation à Marie, je vous propose un deuxième extrait du Messie de Handel, façon Quincy Jones. « For unto us a child is born, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Dans le service protestant sur France Culture, je suis ce matin avec le pasteur Flavien Negrini de l'Union des Églises Évangéliques Libres. Alors donc, Marie, après avoir accueilli cette parole de l'ange, choisit l'acceptation. C'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Et bien plus encore, quelque part, que simplement une acceptation intellectuelle. Ce qu'elle accepte, c'est le choix d'une vie différente, d'une vie de servante. Et ce choix est le fruit de l'assurance d'être aimée et désirée par Dieu. C'est cette découverte qui finalement permet à Marie d'entrer dans la joie proposée. Le choix de l'accueil et du service de Dieu qu'elle pose en réponse à la promesse est le choix d'une vie qui renonce à être conduite par ses désirs et ses besoins. Cela peut paraître bien triste, mais dans son cas, cela lui permet de s'approprier et recevoir plus que tout ce qu'elle avait pu imaginer et rêver. Elle devient ainsi porteuse et mère de celui qui va être le sauveur du monde, et par là même son propre sauveur. Quel destin magnifique ! En faisant cela, elle manifeste que se rendre serviteur du Dieu vivant n'est pas d'abord une exigence afin d'obtenir quelque chose, mais plutôt le fruit de l'accueil d'une parole, et il permet à cette parole d'advenir, de se réaliser. Ainsi, le temps de l'Annonciation rappelle que Dieu n'est pas venu pour Marie seulement, mais pour chacun d'entre nous. En cela, il rappelle que nous avons la faveur de Dieu et que Dieu désire être avec chacun d'entre nous. Il vient sauver le monde du chaos, de son désespoir, en proposant à chacun d'entendre pour lui-même l'invitation à accueillir l'amour et la présence de Dieu au cœur de sa propre vie. Alors devenir serviteur de quelqu'un qui nous veut du bien, qui affirme que l'on a sa faveur, n'est pas une honte ou pire, une démarche intéressée, mais permet un déplacement. N'étant plus le centre du monde, de mon monde, je peux m'ouvrir à voir au-delà de l'obscurité de ma vie pour m'appuyer sur celui qui appelle le jour au cœur de la nuit.
Alors en vous écoutant, je me dis qu'il y a donc une part de bon aux ténèbres. En tout cas, c'est l'histoire aussi du récit de la création du monde, en quelque sorte, du chaos, des ténèbres. Dieu dit la lumière, et puis elle jaillit.
Alors je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire qu'il y a une part de bon aux ténèbres. bien que certains l'aient dit avant vous. Pour ma part, je me contenterai de constater que les ténèbres ne font pas peur à Dieu. Mieux encore, par Jésus, eh bien, ils brisent leur pouvoir d'enfermement et de mort. Alors l'espérance devient possible. Le possible d'un inattendu, d'une irruption de vie au cœur de la mort et du néant. Le possible d'une vie plus forte que la mort. Cette histoire ancienne peut encore aujourd'hui permettre de faire émerger une espérance au cœur de notre temps, bien chamboulé aussi. Alors Marie, jeune femme de son temps, a été visitée afin de devenir porteuse de celui qui est venu sauver le monde. Pour moi, en relisant cette histoire, en l'écoutant à nouveau, eh bien, j'entends que nous sommes invités à ne pas en faire simplement une belle histoire. Et je suis convaincu que chaque fois que nous la rappelons, que nous l'écoutons à nouveau, eh bien, elle se propose d'ouvrir une brèche dans la désespérance de notre monde, de nos vies. Elle nous invite à attendre Noël en choisissant de l'investir comme un temps pour moi. Un temps dans lequel non seulement Dieu rappelle que nous sommes aimés, mais aussi que nous sommes visités parce que nous avons besoin d'être sauvés. Un moment de l'année dans lequel Dieu rappelle qu'il est venu pour moi parce que je suis au bénéfice de sa grâce et qu'il veut m'offrir sa présence. Cette histoire rappelle à sa manière que Dieu ne désespère pas de notre monde et que Dieu ne désespère pas d'aucun d'entre nous. Sauvés de la vanité, de la vacuité de nos vies parce qu'appelés à participer au salut du monde, en devenant porteurs de sa présence qui transforme les vies et les ouvre à un avenir, eh bien nous pouvons nous risquer à vivre joyeux de sa bienveillance en notre faveur et de l'assurance que les nuits les plus sombres de l'histoire ou de nos vies ne sont pas le dernier mot. Un jour nouveau naît toujours de la nuit lorsque Dieu vient nous visiter.
Nous arrivons au terme de ce service protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Anne-Laure Chanel et avec Anthony Thomasson à la prise de son. Mon invité ce matin pour ce quatrième dimanche de l'Avent était le pasteur Flavien Negrini de l'Union des Églises Évangéliques Libres. Un service protestant que vous pouvez retrouver et podcaster sur le site de France Culture ainsi que sur l'application Radio France. Elle est également disponible sur le site protestantaupluriel.org, notez-le bien, où vous pouvez aussi, d'ailleurs, télécharger le texte du jour. Je vous rappelle notre adresse postale, Service Protestant, 47 rue Clichy, 75 009 Paris, ainsi que celle pour nous écrire un courriel, communication@fédérationprotestante.org. Vous avez tout bien noté, eh bien, je vous souhaite maintenant un très bon dimanche à l'écoute de France Culture, où ce sont maintenant les informations qui vous sont proposées et suivies de l'émission talmudique.